le journal, Sarah Guibaudot, bonsoir.
Bonsoir. Le rapport Delevoye pose les bases d'une future grande réforme des retraites. Il veut inciter les Français à travailler au moins jusqu'à 64 ans, fermer la plupart des régimes spéciaux et propose de revaloriser les petites retraites ou d'accorder une majoration dès le premier enfant. Explication. En Guyane, un accident au fond d'un puits d'orpaillage illégal a coûté la vie à 3 soldats français. Ils avaient entre 27 et 31 ans et venaient du 19e régiment du génie de Besançon. Dans la police, c'est la médaille de la discorde destinée à récompenser le surcroît de travail pendant le mouvement des Gilets jaunes. Ces conditions d'attribution font polémique, le ministère de l'Intérieur se justifie. Nous irons en Tunisie où les pêcheurs de Zarzis sont en colère contre les Européens qui n'arrivent pas à s'entendre sur le sauvetage des migrants. De leur côté, les pays du G7 sont tombés d'accord pour taxer les géants du numérique, il n'y a plus qu'à. À suivre, le journal du Tour avec la victoire du Britannique Simon Yates à Bagnères-de-Bigorre. Le téléphone sonne, Yves Decamp.
Ils sont les premiers maillons de la démocratie, mais ils sont désabusés. Près de la moitié des maires de France ne se représenteront pas en mars prochain. Alors comment les remotiver? Comment rendre le mandat plus attractif? Vos questions au 01 45 24 7000.
La météo a un temps toujours perturbé, mais très chaud.
France Inter.
Cette fois, le chantier des retraites avance. Le haut commissaire Jean-Paul Delevoye a remis son plan. Base de nouvelles discussions dès la semaine prochaine avec les partenaires sociaux. C'est ce que demande le Premier ministre Édouard Philippe. Accueil mitigé chez les syndicats. La CFDT salue un système plus juste, mais refuse de pousser tout le monde à travailler au moins jusqu'à 64 ans. Nous allons l'entendre. La CGT y voit une régression sociale et veut mobiliser à la rentrée, tout comme Force ouvrière et Sudrail. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
Il s'agit donc de mettre en place progressivement pour les personnes nées à partir de 1963, un système universel de retraite qui mettrait fin à la plupart des régimes spéciaux. Mais à quel âge arrêtera-t-on de travailler?
Alors sans toucher à l'âge de départ légal des 62 ans, une partie des Français devront effectivement travailler plus longtemps pour toucher leur retraite à taux plein. Jean-Paul Delevoye avance aujourd'hui un âge plancher, un âge d'équilibre en dessous duquel partir à la retraite restera possible, mais enclenchera une décote de vos droit. Ce principe de décote sur cote existe déjà dans le système actuel, mais Jean-Paul Delevoye propose de le généraliser et de le fixer, de fixer un âge de départ à taux plein identique pour toute une génération. Cela veut dire que la génération 1963 devra attendre et atteindre les 64 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein et que les prochaines générations verront cet âge éventuellement repoussé en fonction de l'espérance de vie de leur génération. Cet âge d'équilibre s'imposera donc à tous et deviendra un nouvel outil de pilotage, scénario qui n'est pas acceptable, dénonce Laurent Berger à la CFDT.
Dans le rapport, il y a le fait que l'âge de liquidation pour une retraite totale, en complète, soit fixé à 64 ans. Aujourd'hui, cet âge, il est individualisé. Donc nous avons dit au rapporteur, au commissaire, que nous ne voulions pas de cet âge d'équilibre fixé pour tout le monde à 64 ans. Et donc nous avons dit au commissaire, et nous le redirons dans les concertations, qu'il ne faut pas fixer cet âge pour tout le monde. Il faut le laisser à la libre situation de chacun des salariés. C'est ce que nous porterons dans ces concertations à venir.
Travailler plus longtemps donc, et que propose le haut-commissaire en contrepartie, Laurent?
Alors une bonification de 5% du montant des retraites dès la première naissance et pour chaque enfant, la pénibilité et le travail de nuit seront également intégrés et étendus à la fonction publique, tout comme les périodes d'inactivité pour s'occuper d'un parent ou d'un enfant. Un fonds de solidarité spécifique sera créé à cette occasion. Les pensions de réversion seront également harmonisées à hauteur de 70% des droits à la retraite. Pour un couple, Jean-Paul Delevoye promet enfin un conseil citoyen, une assemblée générale d'employeurs et de salariés pour piloter ce futur système de retraite par points.
Merci Laurent Kramer. C'est donc une vaste réforme qui est envisagée et c'est bien ce que salue Geoffroy Roux-de-Bézieux, le patron du MEDEF.
À partir de 62 ans, on peut liquider sa retraite. Mais après, il y aura un système qui incitera les salariés à travailler plus longtemps, prenant en compte leur carrière longue, l'éventuelle pénibilité de leur métier. Et cet âge, il va varier au fur et à mesure de la démographie, des conditions économiques. Et c'est ce pilotage-là qui est intéressant. Ça sera d'ailleurs un challenge qui est lancé aux employeurs pour mieux employer les seniors. Donc il y aura une pension d'un certain montant et plus vous travaillez longtemps, plus cette pension augmentera.
Le député Les Républicains Éric Woerth dénonce le manque de courage ou l'hypocrisie qui consiste à ne pas reculer vraiment l'âge de la retraite, seule façon selon lui de revenir à l'équilibre financier. Une réforme hypocrite estime aussi la France Insoumise qui refuse, elle, cette incitation à travailler plus longtemps, tout comme le Rassemblement National qui estime que les Français sont victimes des rabotages sociaux du gouvernement. L'objectif affiché par Jean-Paul Delevoye est une entrée en vigueur du nouveau système à partir de 2025, mais avec une phase de transition qui pourrait durer 15 ans. Ils étaient partis en Guyane pour lutter contre les ravages des exploitations d'or illégales. 3 soldats du 19e régiment du génie de Besançon sont morts dans un puits qu'ils s'apprêtaient à détruire à l'explosif, victime d'émanations toxiques. Le sergent-chef Edgar Rollinger, 27 ans, le caporal-chef de première classe Cédric Guyot, 31 ans, et le caporal-chef de première classe Michael Vandeville, 30 ans. Bonsoir Thibault Lefebvre.
Bonsoir Sarah.
5 autres militaires sont hospitalisés, dont un dans un état grave. L'accident s'est produit à 150 km au sud de Saint-Laurent-du-Maroni, en pleine Amazonie.
Oui, et c'est bien un accident pour l'état-major des armées. Un accident survenu lors d'une mission pourtant rodée. Depuis plus de 11 ans, l'armée française détruit chaque année à l'explosif des dizaines de puits d'orpaillage qui peuvent, pour les plus importants, atteindre jusqu'à 40 mètres de profondeur. Et c'est dans ce contexte hostile, dans la jungle amazonienne, accessible seulement à pied, sans réseau téléphonique, qu'hier après-midi, les 3 militaires sont morts intoxiqués. Les précisions du colonel Frédéric Barbry, il est porte-parole de l'état-major des armées.
À 16h, alors qu'ils plaçaient leur charge, ils ont été victimes d'une intoxication. Les 3 militaires étaient tous présents en Guyane pour une mission de courte durée. Ils étaient des militaires, des sapeurs de l'arme du génie. Ils appartenaient au 19e régiment du génie de Besançon. C'était des spécialistes parfaitement aguerris et formés à leur mission.
On ne connaît pas encore l'origine de ces émanations toxiques. L'hypothèse la plus plausible est une intoxication au monoxyde de carbone due peut-être à un système de ventilation rudimentaire ou à un groupe électrogène mal installé. Des gendarmes sont sur place, une enquête est en cours. 5 autres soldats du même régiment ont été touchés, vous l'avez dit, dont un dans un état grave. Ils sont actuellement pris en charge au centre hospitalier de Cayenne.
Merci Thibault Lefebvre. Non, les algues vertes n'ont pas causé la mort d'un jeune ostréiculteur le 6 juillet dans la baie de Morlaix. Après avoir reçu les analyses toxicologiques, le procureur de Brest est formel. À Étretat et les communes voisines en Normandie, ce ne sont pas les algues vertes, mais un incendie dans la station d'épuration qui a conduit à fermer les plages à la baignade. C'était une reconnaissance pour l'engagement exceptionnel des forces de l'ordre pendant les manifestations de Gilets jaunes. Quelques 9000 policiers et gendarmes ont été décorés au mois de juin. Mais Mediapart révèle que certains médaillés sont mis en cause pour des violences, comme le commissaire qui encadrait la charge dans laquelle Geneviève Leguet, 73 ans, a été blessée à Nice. Et même chez les policiers, Sophie Parmentier, bonsoir.
Bonsoir.
Les conditions d'attribution sont très contestées.
Ça partait peut-être d'une bonne intention, mais à la fin, c'est une médaille en chocolat et ce ne sont pas les bons qui sont récompensés. On est écœuré, s'offusque en cœur plusieurs syndicats de police, tour à tour, des CRS, des gardiens de la paix, des officiers, citent des oublis choquants dans cette longue liste de 9000 noms retenus pour cette médaille de la sécurité intérieure promotion gilet jaune. Un officier qui aurait assuré le maintien de l'ordre 24 week-ends d'affilée n'aurait pas été décoré. Plusieurs policiers de terrain qui ont fait face au pavé auraient aussi été privés de décoration, alors que des agents de divers préfectures restés dans des bureaux se trouvent aujourd'hui médaillés, se plaignent les syndicats. Parmi les décorés, l'actuel préfet de police de Paris, Didier Lallement, médaille de bronze, et parmi les noms qui font le plus polémique, en effet, celui du commissaire de Nice qui a ordonné la charge brutale sur la manifestante altermondialiste Geneviève Leguet, celui du capitaine qui commandait les CRS, auteur des tirs qui ont tué une octogénaire à Marseille, ou encore ceux d'officiers impliqués dans un passage à tabac à Paris. Autant d'hommes visés par des enquêtes de la police des polices qui n'auraient pas dû être décorés, disent certains de leurs collègues. Le ministère de l'Intérieur se justifie derrière le principe de présomption d'innocence et assure que si ces policiers visés par des enquêtes sont reconnus coupables in fine, la médaille leur sera retirée.
Il fut maire de Puteaux pendant 35 ans. Charles Secaldi-Reynaud est mort à l'âge de 94 ans. Dans la lignée de Charles Pasqua, il incarnait cette génération d'élus de droite qui accompagna l'enrichissement de l'ancienne banlieue ouvrière des Hauts-de-Seine. Le gouvernement va mener un audit sur la reprise de l'ancienne usine Whirlpool d'Amiens. Il s'agit de vérifier comment a été utilisé l'argent public par le groupe WN. Après la fermeture des ports italiens, l'Union européenne reste incapable de s'entendre sur l'accueil l'accueil des migrants naufragés en Méditerranée. Les ministres de l'Intérieur européens réunis en Finlande n'ont pas réussi à trouver un accord aujourd'hui, alors qu'en Tunisie, la mer rejette jour après jour des cadavres. Dans la station balnéaire de Zarzis, les habitants sont en colère contre l'Europe. Le reportage de notre envoyé spécial Rémi Brancato.
Dans le port de pêche de Zarzis, depuis le début de la guerre en Libye, tout le monde a déjà croisé la route d'un bateau de migrants, mais aussi de naufragés.
Tout le temps, on voit les cadavres.
Salahedin Charek est le président de l'association des pêcheurs qui porte secours et alerte les autorités.
Et nous, comme des pêcheurs, on dit attention, il faut sauver les gens à la mer.
Car il est très en colère contre les Européens. L'Italien Matteo Salvini, en tête, sa politique migratoire passe mal ici. Shamseddin Marzouk, pêcheur lui aussi, avait l'habitude d'aider les ONG de sauvetage en mer et leurs bateaux.
L'Italie, avec l'aide de l'Union européenne, ils ont mis des lois mortelles à leur mesure de stopper tous les bateaux de sauvetage. L'Union européenne, elle veut que le Méditerranée soit la grande cimetière du monde. Même si l'Europe, elle dit le sauvetage c'est un crime, nous on ne va pas stopper, on ne va pas laisser les gens mourir.
Shamseddin aide aussi à inhumer les cadavres avec le croissant rouge tunisien. Son président à Zarzis, Monji Slim, regrette lui aussi le revirement européen.
C'est une façon indirecte que l'Europe nous rejette ces migrants, puisque c'est bloqué dans l'autre sens. Là, les frontières tunisiennes sont ouvertes. La garde nationale, l'armée nationale aussi acceptent les gens qui cherchent la protection et ils viennent chez nous et le nombre augmente de jour en jour.
En Tunisie, 700 personnes sont aussi arrivées par la frontière libyenne entre janvier et juin. C'est 100 de plus que sur toute l'année dernière.
Les ministres des Finances du G7 se sont quittés, eux, plutôt optimistes ce midi à Chantilly, près de Paris. Les grands argentiers des 7 puissances économiques, Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni, ont fait un pas vers une harmonisation de leur fiscalité. Ce n'est pas fait, Claire Chaudière, mais tout le monde est d'accord pour taxer les géants du numérique et pour fixer un impôt minimal sur les sociétés.
Au chapitre des grands principes, il y aura bien un avant et un après Chantilly. Les discours ont changé de tonalité sur la question des multinationales et de l'optimisation fiscale. Et le fait d'acter la création d'un impôt minimal commun sur les sociétés à l'échelle internationale va dans le bon sens pour Quentin Parinello, porte-parole de l'ONG Oxfam.
On est à un tournant. On est passé il y a quelques années de dire l'important c'est qu'il n'y ait pas de double imposition sur les entreprises à... L'important, c'est que les entreprises payent leur juste part d'impôt. Donc philosophiquement, il y a une avancée. Mais le diable se cache dans les détails.
Premier regret, dans ce qui se dessine, seuls les pays en développement où se trouvent les sièges des multinationales pourront taxer les sociétés lorsque ce niveau plancher n'est pas atteint, niveau qui reste d'ailleurs à déterminer. Quant à la taxation des activités du numérique, même sans présence physique dans un pays, dossier central sur lequel un accord a été trouvé, elle ne concernera pas, nuance l'ONG, la globalité des bénéfices de ces sociétés.
Ça sera une toute petite partie du bénéfice. On essaye d'adapter le système à la marge sans trop le changer. Et il y a un vrai risque que finalement les grandes multinationales puissent encore échapper à l'impôt.
Discussions qui vont se poursuivre dans les prochains mois dans un cadre plus large avec autour de la table plus de 130 pays.
Après le défilé du 14 juillet, Franky Zapata veut traverser la Manche avec sa planche volante. Pas une bonne idée, estime la préfecture maritime. Pas sûr qu'il puisse passer au-dessus des porte-conteneurs dans le détroit du Pas-de-Calais. Cet avis défavorable ne vaut pas interdiction. Toutefois, le journal du Tour. Une victoire d'étape britannique à Bagnères-de-Bigorre et le maillot jaune qui reste sur les épaules de Julien Alaphilippe. Bonsoir Fabrice Rigobert.
Bonsoir.
C'est donc Simon Yates qui remporte la 12e étape.
Oui, 12e étape du Tour de France, 7e de la Grande Boucle il y a 2 ans. Et maillot blanc de meilleur jeune, Simon Yates a signé à 26 ans à Bagnères-de-Bigorre. Le premier succès de sa carrière sur le Tour, au sprint devant le Basque Peyo Bilbao et l'Autrichien Gregor Mühlberger, membre de l'échappée de 40 coureurs qui s'est constitué en début d'étape, le vainqueur du dernier Tour d'Espagne qui a franchi en tête la Hourquette dans 6 ans. Devant l'Autrichien a été rejoint dans la descente par Peyo Bilbao. Il a contrôlé ses adversaires dans le dernier kilomètre pour s'imposer.
Oui, mon premier victoire. Je suis très très content. Une journée parfaite.
La joie de Simon Yates et la déception des autres attaquants. 13 coureurs ont fini à 1 minute 28, dont le français Tony Galopin. Il était dans le bon coup avec 4 autres tricolores, à l'image de Lilian Calmejane, en tête dans le col de Peyresourde. Tony Galopin, battu par plus fort aujourd'hui.
Les jambes étaient bonnes, ça a été une bonne échappée. On savait qu'on allait jouer la victoire. Maintenant, il y avait des bons coureurs. Et voilà, c'est déception sur le sommet. J'avais la sensation que je pouvais jouer la gagne, mais au final, Yates a attaqué plusieurs fois et... il est venu à bout de nous.
Une journée tranquille pour le maillot jaune qui n'a jamais été menacé. Julien Alaphilippe a franchi la ligne avec plus de 9 minutes de retard dans le peloton des favoris. Ces derniers n'ont pas voulu s'attaquer dans cette première étape de montagne dans les Pyrénées. Julien Alaphilippe.
Je suis super content. Je m'attendais à des attaques dans le final, mais je m'attendais aussi à ce scénario-là où tous les favoris se neutralisent avant la journée importante de demain avec le chrono. Donc finalement, voilà, ça a monté vite, mais ça aurait pu être pire et je pense que ça va être une grosse explication demain et dans les prochains jours.
Julien Alaphilippe s'élancera demain en dernière position à 17h19 pour le contre-la-montre autour de Pau, Sarah.
Ses directeurs sportifs l'ont perdu de vue une grande partie de l'étape.
Oui, c'est l'histoire du jour. À vrai dire, ils ne savaient même pas, ses directeurs sportifs, où il était passé. L'abandon de Rohan Dennis a été annoncé et personne ne sait comment le coureur a rallié l'arrivée. Son coéquipier Dylan Teuns ne s'attendait pas à ce que l'ancien champion du monde du contre-la-montre et vainqueur d'étape en 2015 sur le Tour quitte la grande boucle.
Quand je suis arrivé au bus, j'ai vu un vélo et j'étais complètement sur le cul, vraiment surpris, parce que je savais que j'étais le premier coureur de l'équipe dans le peloton et donc le premier à finir. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe.
Un différend entre le coureur et son équipe pourrait expliquer cette drôle de façon de quitter le Tour. Rohan Dennis qui est parti sans un mot ce soir.
Revenons sur ce joli moment. Aujourd'hui, le passage du Tour dans le quartier de Bagatelle au départ de Toulouse.
Un moment très important pour l'association Média Pitchoun qui a bataillé 10 ans durant pour que le Tour passe au pied des Tours. C'est désormais chose faite. Ayet Belaroussa, 17 ans, a été l'une des premières à rejoindre cette association.
C'est ça, je suis très émue, je suis très très contente. Franchement, sincèrement, je suis très très contente. Moi, je vais essayer de ne pas pleurer parce que je pleure beaucoup ces derniers jours. Mais je suis très très fière et très contente de voir toutes ces personnes qu'on voit sur le Tour de France tous les jours en fait arriver chez nous.
Et demain, le Tour s'arrête à Pau pour un contre-la-montre de 27 km. Le centenaire de la création du maillot jaune sera célébré en présence du président de la République. Une course féminine professionnelle sera aussi organisée le matin de cette étape à 9h30.
Merci Fabrice Rigobert.
La météo ? Avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Sarah.
Une journée plutôt ensoleillée demain, mais plus nuageuse sur le nord-ouest.
Oui, demain matin, le soleil sera déjà radieux entre l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. Et les éclaircies seront belles entre les pays de la Loire, l'Île-de-France et le Nord, alors que les nuages s'imposeront ailleurs. Progressivement, les nuages vont se faire plus discrets et soleil et belles éclaircies vont gagner du terrain pour un après-midi plus agréable. En revanche, les nuages vont continuer de s'accumuler sur la Bretagne et la Normandie, débordant même vers le pays nantais et les côtes des Hauts-de-France. De petites pluies aborderont le Finistère en matinée et concerneront l'ouest Bretagne et le Cotentin demain après-midi. Plutôt faible en journée, ces averses deviendront plus marquées en soirée et nuit suivante, tournant même à l'orage. Et puis des averses orageuses aborderont également les plages de l'Aquitaine en deuxième partie de nuit de vendredi à samedi.
Et les températures repartent à la hausse.
Oui, on sera quasiment partout au-dessus des normales de saison avec 26 à 35 degrés en général. Prévoyez par exemple 29 degrés à Toulon, Ajaccio, Rodez, Paris et Colmar et 31 degrés à Bordeaux et Marseille. Mais sous les nuages du nord-ouest, il fera plus frais avec par exemple 21 degrés à Lannion et Boulogne-sur-Mer.
Merci Sébastien Léas de Météo France.